Donc pendant que les gens retirent leur boîtier, je vais en profiter pour faire une présentation rapide. Donc premier auteur à ma gauche, Peter Watts, auteur canadien bien connu. Alors je ne sais pas si c'est véritablement la peine de vous le présenter. Les habitués des Utopiales ont tous lu les Visions aveugles, par exemple, l'œuvre la plus connue de Peter. Il y en a de nombreuses autres. C'est aussi une personnalité très présente sur le net. On a récemment suivi ses aventures et ses mésaventures avec passion pendant quelques semaines. À côté de lui, Andreas Esbar, avec de nouveau mes excuses pour ma prononciation de l'allemand. Là encore, un auteur très bien connu, un auteur allemand qui parle français, qui parle anglais, donc on a un auteur polyglotte avec nous aujourd'hui. Presque un français aujourd'hui, parce que je crois que tu passes beaucoup de temps dans la région. Vous avez probablement, la plupart d'entre vous, ont lu au moins des milliards de tapis de cheveux, qui est l'ouvrage qu'il avait, le roman qu'il avait révélé il y a presque 10 ans maintenant, et les nombreuses œuvres qui ont suivi. Et à côté de lui, Christophe Motandon, là qui n'est pas un auteur de science-fiction, pour changer un petit peu. Donc là, on a une table ronde un peu hétérogène, du genre qu'on aime bien aux Utopiales, avec à la fois des auteurs, des créateurs de science-fiction, et un technicien, en l'occurrence, si j'ai bien compris, un ancien ingénieur du CEA qui a décidé de fonder une entreprise pour mettre en œuvre les recherches qu'il avait menées au CEA. Et donc cette entreprise, c'est Datasoft, je crois.
Datasoft, qui est en effet une start-up du CEA, on a été créé il y a 4 ans.
Okay. Donc qui développe et qui commercialise des technologies de réalité virtuelle et de vision artificielle. Et donc je pense que le plus simple pour commencer, c'est de commencer par un rapide état des lieux, puisque nous avons un spécialiste dans le panel. Je te propose de nous dire quelques mots sur ce qu'est pour toi la vision artificielle, ce que c'est pour toi la réalité virtuelle telle qu'elle est implémentée dans les entreprises effectives.
Donc bonjour à tous, effectivement Datasoft, on est une société qui est spécialisée dans la réalité augmentée. Donc on n'adresse pas tous les métiers de la science-fiction, mais l'idée c'est de voir de quelle manière la réalité augmentée aujourd'hui pourrait être utile pour la réalisation de films de science-fiction. Donc je pense que ce qui est important dans un premier temps, c'est de définir qu'est-ce que la réalité augmentée. Souvent on dit que c'est la capacité à incruster des images de synthèse dans des images vidéo. Et bien souvent, quand on dit ça, les gens répondent dans ce cas-là, qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est de la réalité augmentée. Donc oui et non, dans le sens où la promesse est remplie, il y a bien un mélange d'images de synthèse avec des images vidéo. Mais la différence par rapport à ce que nous on fait aujourd'hui en réalité augmentée, c'est que c'est pas interactif. Roger Rabbit, c'est un film où la personne est spectateur et on ne peut pas interagir et pour lequel il y a beaucoup de post-production. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de la réalité augmentée. Vous pourrez venir le voir sur notre stand qu'on a avec le CEA, qui est temps réel. C'est-à-dire qu'on a une caméra avec un dispositif et on peut filmer une scène et en temps réel, en live, de manière interactive, voir l'incrustation de l'image de synthèse dans la réalité. Donc la question, c'est de savoir de quelle réalité on parle dans réalité augmentée. Est-ce que c'est la réalité du spectateur et donc on parle du film qui a été fait en post-production où là, il y a la réalité augmentée. Mais dans ce cas-là, les outils ne vont pas être les mêmes que dans une réalité augmentée interactive. Puisqu'au fait, les contraintes ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on fait la réalité augmentée interactive, on a besoin de faire des calculs très rapides, plusieurs fois par seconde, pour faire une incrustation correcte. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, puisqu'on est spécialiste de la réalité augmentée interactive, c'est pas tant la réalité du spectateur, c'est plus la réalité du studio de production. C'est-à-dire dans quelle mesure ces outils interactifs pourraient aider à réaliser des films de science-fiction. Donc, je peux vous donner quelques exemples auxquels j'ai réfléchi, mais je ne suis pas un fan de science-fiction et puis je ne suis pas spécialiste du domaine, mais par exemple on pourrait imaginer que lors du montage, enfin, lors de la production, on affiche en temps réel les éléments virtuels, ce qui permettrait par exemple d'aider le caméraman à faire un cadrage, je ne sais pas si ça a du sens, plutôt que de voir le résultat final en post-production. Est-ce que pour les acteurs par exemple ça pourrait être intéressant d'avoir un retour immédiat pour pouvoir se positionner respectivement par rapport aux éléments virtuels du film de science-fiction. Est-ce que pour le metteur en scène, c'est important d'avoir un rendu interactif et immédiat pour ensuite corriger et rectifier le tir en temps réel? Voilà, donc c'est un peu toutes ces questions qu'on se pose. Aujourd'hui, nous, on a une technologie qui est capable, lorsqu'on filme une scène, d'incruster en temps réel ces éléments virtuels. Et la question, c'est est-ce que ça peut servir à quelque chose ? Est-ce que ça peut optimiser les temps de production, etc.
Vous nous présentez des choses qui parlent en fait aux amateurs de science-fiction. Ce sont des choses dont on a, avec lesquelles on a beaucoup joué dans la science-fiction. Un fantasme habituel, c'est sinon celui du savant fou, du moins celui de l'ingénieur fou qui vient à ce type de recherche par le biais de ses lectures, par le biais de la science-fiction. Vous nous dites de ne pas être un fan de science-fiction. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qui vous a amené dans la vraie vie à travailler sur ces sujets très futuristes, hein?
Écoutez, ce que j'aime bien dans l'informatique et la programmation en général, c'est le côté interactif, dans ce sens que c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo, si vous voulez, il y a une liberté d'action qui contribue à l'immersion de la personne dans le monde virtuel et qui donc donne une sensation supplémentaire de réalité. Voilà. Et donc dans la réalité augmentée, interactive, ça prend tout son sens parce qu'on est vraiment immergé dans un monde qui est à la fois virtuel et réel. Et voilà, ça décuple un peu les possibles.
Peter, je suis tenté de vous poser la question symétrique. Est-ce que l'existence d'entreprises de ce type, est-ce que les progrès technologiques qu'on voit apparaître quasi quotidiennement, en tout cas en rafale à relativement court terme ces temps-ci, sont pour vous en tant qu'auteur une source d'inspiration ou est-ce que vous réfléchissez à des choses beaucoup plus futuristes et sur des spéculations beaucoup plus lointaines?
I find it a little disquieting that the Sony Corporation has been quietly renewing a patent ever since, I think, 2000, 2001, for a technology to insert sensory images, bypass the sensory cables entirely, and plant sensory impressions directly into the cortex by means of compressed ultrasound. They're selling it as a great gaming platform. And they are also talking about the incredible medical implications of, you know, basically you don't have to wait for your eyeballs to register something. You simply have the data implanted in your brain. Because it's ultrasound, it's presumably non-sticky. The neurons bounce back afterwards. Nobody seems to be asking the question of, you know, okay, given that a neuron is a neuron, and it fires pretty much the same way when it's in the motor strip as it does when it's in the visual cortex, as it does when it's in the parietal lobe or the frontal cortex. What's to stop the same technology from just edging a little bit to the right and instead of planting an incredible Skyrim video sequence into our heads, planting a different political view or an irrepressible desire to go out and buy a year's supply of a particular kind of bubble bath for dogs? There are elements to augmented reality that are subtle in this way, in the sense that we basically lose track or control of what it is we are perceiving or thinking. There are more gross examples. Carl Schrader wrote a novel, I believe it might have been Permanence, maybe it was one of his other ones, in which you couldn't look at anything legally. You couldn't look at anything without having the price tag and the copyright information superimposed over everything you looked at. So you couldn't look at a chair without knowing who had made it and how much it would cost and how much you would go to, you know, how long you would go to jail for if you actually tried to copy this chair without permission. He wrote another novel called Lady of Mazes about consensual realities in which you could literally be centimeters away from somebody and not perceive them because they lived in a different sort of perceptual sphere, and massive central programs kept people from bumping into one another. To some extent, this is already happening in the sense that we can all watch Fox News if we want and never watch MSNBC. We can surround ourselves only with that kind of information that we find politically palatable and ignore everything else. And when you cut out sort of the last sensory middleman and allow yourself to directly perceive these things without even the pretense of a news screen in front of you, I think we're in for some really interesting times.
Vous nous parliez des dernières nouveautés de Sony. On a eu une table ronde sur la question tout à l'heure sur les interfaces entre le cerveau et la machine. Comment vous tenez-vous informé de ces choses-là? Vous suivez de très près les revues scientifiques, la documentation technique? Ou c'est simplement au hasard de vos lectures que vous, que vous êtes conscient de ces évolutions qui peuvent amener toutes ces réflexions politiques, sociales et sur les risques qu'elles peuvent induire pour l'humanité.
I used to be an academic myself, so I had a certain amount of access to the gray literature, the tech literature. Now I still have friends in academia who are willing to get me past the firewalls for various universities, so pretty much any technical paper I want I can get my hands on. That said, I get most of my leads from, you know, Wired and IO9 and the various, basically the national inquirers of science journalism. And they generally don't give you the whole story, but they certainly give you a place to start. At the very least, they give you a link to a place where you can actually find the original source material. And you frequently find that these studies have been misrepresented in the popular press, but as long as you can actually go and look at the original studies, that's really, I still think that kind of journalism offers a lot more than it costs, because you can check up on it. As for the rest of it, as to my ability to perceive the subtle political machinations under it, that's just good old-fashioned science fiction paranoia.
Andreas, je suis tenté de te poser la même question.
There's a saying in science fiction that there's no subject in science fiction that Stanislaw Lem has not written already a book about it, and this is the case also for augmented reality. It was a novel that's named A Futurological Congress. I think it was written in the 70s or something, and there they don't do it with computers, they do it with drugs. You drug yourself and everything is beautiful, and only if you fail to take in the right drugs, you suddenly become aware that the food on the table is already rotten, all the rooms stink, everything is in decay. And this is what comes to my mind, at least, if we think about such things like Google Glass for everybody, and a brain interface would even be worse because you can't put it off easily. We would be at the mercy of great networks, of great companies who may exploit us, and if they can, they will, of course. They will create any world they would like to us to be in for us. And we would simply lose our possibility to see what's there in the real life. We would even forget what real life means. And if we look back in another realm of maybe, let's say, wisdom, all the saints and spiritual masters and so on, of the centuries, they don't agree on much, but they agree on one point, and that is, it's good if we are able to see the world as it is. And by putting on Google glasses and adding price tags to everything we see, to adding layers and layers upon layers of additional information, we're moving in the other direction, away from wisdom.
I think it's worth pointing out here, though, that we already don't see the world the way it is. Yeah, we have a blind spot in the middle of our visual field, and we not only don't perceive what's in that blind spot, we don't perceive the existence of the blind spot. Vision does not so much work from the bottom up in terms of we don't exactly see so much what's out there as what we see is a sort of a visual stimulus that triggers memories of things we've already seen. And those memories replay with edits to sort of bring them up to scratch in what we've got. There are studies out of various cognition labs where people will be looking right at pictures of buildings that pop in and out of existence, and they will not notice it. You can be carrying on a conversation with somebody and be momentarily distracted, and when you look back, there's a completely different person talking to you. 50-60% of the people in this study don't recognize that they're now talking to a different human being. There's a classic study out of the on inattentional blindness out of the University of Chicago, I think their cognition lab, where they basically have people watching people throwing balls around, and in the middle of this footage, a guy in a gorilla suit comes out, stands instead center stage, jumps up and down and waves at you, and walks off the screen again. Hardly anybody ever notices the gorilla. So what I would really like your augmented tech to do is to fill in my blind spot and to fill in the 90% of my visual field, which I believe gives me high-res vision, but which in fact does not. What I would like to do is see the world the way it is, but our brains simply aren't built, even as it is, to parse objective reality. Our brains are survival engines, not truth detectors.
Yes, I think this teaching of seeing the world as it is was not because Google Glasses were too common in Buddha's time. So, of course, these old teachings they're concerned about how what we don't see the world out of as it is, out of greed, out of all emotions that paint the world in a different direction, and we in different colors, and so this was the reason. But actually, this is the question we have to ask: is do we want this?
But I think that the basis of that question, I mean, given that we already don't see reality as it is, given that essentially reality is off the table for anything that parses input through a nervous system, if you really want to perceive the universe directly, become a paramecium or an amoeba or something that just has basic senses and no brain. The moment we have to start interpreting things through a nervous system, reality is kind of off the table. So the question, I guess, is, and I'm not saying this, I'm saying this in kind of a devil's advocate way. I'm not saying I approve of some of the things. I mean, I agree with many of your misgivings about augmented reality. But given that what we already see is not real, adding virtual overlays, adding tactical graphics and so on top, does that make the world less real? Or does it make the world more real in the sense that those overlays can actually show us things that are there that our defective visual systems would not otherwise perceive?
Christophe, est-ce que dans l'état actuel ou dans l'état des technologies prévisibles dans un futur proche, on peut imaginer des systèmes de réalité augmentée qui feraient le genre de choses qu'évoquait Peter, soit nous donner un avertissement sur le fait qu'un objet que nous regardons est copyrighté, soit pour nous dire qu'on est en train de louper le fait qu'un gorille est en train de nous faire coucou sur
oui,
un écran.
Oui, enfin, tout à fait. Enfin, moi, ça dépasse un peu le domaine de ma société, mais on peut en parler quand même. Je pense qu'effectivement, on voit qu'une partie de la réalité. Je pense que nos sens sont limités en nombre et ils sont aussi limités en domaine de fréquence. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir, les ultraviolets, les infrarouges. Il y a des choses qu'on ne peut pas entendre. Peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait même pas toucher. Et puis peut-être qu'aussi, il y a des choses pour lesquelles on n'a même pas le sens pour les percevoir. Donc clairement, on voit une partie de la réalité. La réalité augmentée, ça permet d'ajouter des contenus par rapport à ce que nous on est capable de percevoir, donc c'est très intéressant, mais il faut faire très attention, je pense, à la nature de l'information, parce que voilà, c'est comme sur Internet, c'est important de pas prendre l'information pour argent comptant. Et ce qui est aussi compliqué, je pense, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait la réalité augmentée, on le fait à travers une interface, un téléphone, donc on arrive bien à faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Demain, on aura des lunettes, on aura des choses qui nous projetteront des choses directement dans les yeux, et on sera peut-être plus trop à même de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel, et ça peut poser des problèmes en fonction de ce qu'on présente en contenu virtuel. Voilà, c'est un peu mon avis aujourd'hui.
Sinon, Andreas évoquait tout à l'heure Stanislas Lem, qui est un auteur tout à fait redoutable, parce que c'est à la fois un humoriste avec un humour tout à fait piquant et assez sophistiqué, et en même temps, c'est lui-même un philosophe. Il se trouve que c'est un écrivain qui s'est senti... Lorsqu'il n'a plus pu transcrire ce qu'il souhaitait dire en matière sous forme de nouvelles et de fiction, il a écrit un livre de philosophie, La Summa Technologiae, qui, à ma connaissance, n'est pas traduite en français, mais qui est disponible en allemand et en anglais. Je suis assez frappé de voir qu'aussi bien Peter qu'Andreas se sont partis très rapidement, en fait, sur des questions d'ordre philosophique, donc philosophie morale et politique. Est-ce que pour vous, c'est un des rôles des auteurs de science-fiction que de que de réfléchir non seulement à ce qui pourrait advenir, mais aux conséquences morales, politiques et philosophiques des technologies de ce type.
I'd like to agree with you in the essence of what I think you're saying. I find the way you're saying it a little bit problematic, in that you are, the way you phrase it is that science fictions are kind of, you know, the mad prophets pointing out the dangers of where we're going, and that's certainly a part of it, but that also implies an agenda.
Yeah.
And I'm not saying science fiction writers don't have agendas. People have agendas.
Yeah.
The way I like to regard science fiction is I come up with a premise, you know, either the standard if this goes on, or ooh, that's kind of interesting. If it's true for this species, what if it's true for that species? Or, oh, I did not know the brain worked that way. What if somebody figured out how to monetize that? And then you follow that premise. I think of science fiction as a thought experiment in the same way that back when I was a marine biologist, I would think of physical experiments. The difference is you have to fillate a readership in order to keep funded instead of fillating funding agencies. And of course, you can afford to be wrong if you're just writing a story because it's just fiction. But I think the goal is definitely to explore ramifications and consequences of technological change and scientific breakthroughs, for sure. Not necessarily to warn, though. I mean, what happens if there's something that is really cool that we want to advocate? So yeah, we're definitely science fiction is not a game of this is the way the future is going to be. Science fiction is a game of suppose the future was like this, what would be the consequences, good or bad? Mm-hmm. It's a game of what if.
Okay.
Yeah, I agree. Yes. Supposed it's the future will be like this, how will it be? How will it really be? And my experience is that if you let scientists predict the future, they are always far too optimistic how good their invention is. And if you say, wait a minute, and well, you're in the role of the naysayer, of the warner, but the question behind is really only how will it be, really, realistically? This is what interests me.
Yeah, I think that's a really interesting point. I think that scientists not just are too optimistic. I think they're bad science fiction writers, and I say this as an ex-scientist myself. We are trained. We spend our entire professional careers being trained not to speculate, to back up everything we say with footnotes. That's why I've got these anal retentive footnotes at the backs of all my stories, basically to cover my ass. We are taught that this is the dogma, this is the model, and as a result, every time we think of a new cool innovation, 20 years of training jump on our heads and smash that dream down, saying, well, this is why it couldn't work, and that's why it couldn't work, and it couldn't work for that reason anyhow. And then you've got someone like William Gibson, who had no idea what computers were and was working on like a World War II vintage typewriter, and basically inspired an entire new direction of hackers. You've got a guy, Robert Forward. Anybody read Robert Forward's stuff?
Of course.
He wrote a book called Dragon's Egg, which had some really interesting speculations about the evolution of life on a neutron star. The prose was terrible. The guy couldn't write a fortune cookie, but he had some really good ideas. But this guy was a physicist. And in the 1980s, he was writing about computer interfaces in the 2050s. And he showed us his idea of a 2050, mid-21st century computer interface. And it was like a teletype. It was all capital letters. And it was all like green letters on a black screen. And it was totally text-based, and there was no graphics. And this was a guy who was a professional scientist working with computers every day of his life. You go 10 years earlier, you've got Samuel Delaney writing a book called Nova, in which he basically mentions offhandedly that now people fly spaceships by jacking themselves into a fiber optic port at the base of their spinal cord. Samuel Delaney, a complete artsy. I think the closest he got to like biological expertise was he worked as a header on a shrimp boat once. But he came up with a far more imaginative and more to the point, a more prescient, a more accurate vision of the way technology is going than somebody who is actually immersed in technology day to day. And I think that's because generally as scientists, we have no imagination. And we have no imagination not because we are inherently dull, but because the process of academic science trains us to hammer that part of us into non-existence.
Vous êtes vous-même un contre-exemple, on peut en trouver d'autres. Isaac Asimov a été un biochimiste. Si on sort du monde académique, Heinlein était un officier, un ingénieur. Une formation technique n'est pas un handicap pour écrire de la bonne science-fiction. C'est juste très difficile d'avoir les deux compétences et les deux talents.
I agree that there are scientists. I mean, Gregory Benford's a good example too of somebody who's a scientist who is capable of incredible vision. But I think that those people, Mary Doria Russell is another case. But I think those are people who succeed not because they're scientists, but despite being. You know, a good example, Werner Vinge, his concept of the zones, the idea that the laws of physics could change as you get out from the center of the galaxy. And so you've got areas where faster than light travel is fine, and then we're in the slow zone. Brilliant, brilliant. He's not a cosmologist. He's not an astronomer. What he is a computer scientist. And when you look at his vision of like 28th century computer networks, it's like 90s era Usenet with some of the headers changed. So capable of brilliant vision, but perhaps not within your field of expertise. When was the last time Isaac Asimov wrote a story about biochemistry?
So what you're basically saying, if one knows too much about a subject, this is not good for writing.
I think perhaps too much. I think knowing too much about the state of the art today blinds you, perhaps acts as a straitjacket to your imagination. For sure. I mean, I find myself constantly. One of the reasons some of my books are so damn talky is because, you know, somebody will say yes, but how does Behemoth get past the cytoplasmic membrane without triggering the lysosomal reaction? And then I'll spend like 3 pages describing that. And it's bullshit. It's probably wrong. And it stops the story dead. But I've got these reflexes that were hammered into me, which again is not to take away from the brilliance of many scientists who are. But I do suspect that in most cases you'll find that the most visionary science fiction written by scientists is probably written by scientists writing outside the field of their expertise. And we're kind of way off topic, for which I apologize.
Alors, je vais peut-être un peu recentrer la discussion. Effectivement, on a beaucoup parlé de réalité augmentée, c'est-à-dire d'informations supplémentaires surajoutées à la vision, d'une manière ou d'une autre. Je crois que l'un des sujets de la table ronde qui avait été proposé par les organisateurs des Utopiales étaient aussi les autres types de visions. Alors, autres types de visions qu'on pourrait avoir dans le futur. Pour ce que j'en comprends, ça peut être d'une part des types de visions à d'autres endroits, ça peut être une variété spatiale. Et effectivement, on a de plus en plus de télévisions, Internet et consorts qui nous permettent de voir ce qui se passe à d'autres endroits, voire à plusieurs endroits à la fois. Et d'autre part, ce sont d'autres types de rayonnements physiques que les rayonnements optiques. Bon, on a l'habitude des visions infrarouges qui nous permettent de voir la nuit, mais on peut imaginer aussi d'autres types de conversions, aller regarder ce qui se passe. On peut imaginer même de voir le son. On peut imaginer de transformer des signaux acoustiques en signaux physiques. Est-ce que ce sont aussi des choses qui sont considérées par l'industrie actuellement? Est-ce qu'on a des applications de ce genre sur le feu? Ou est-ce que ce sont aussi des choses très lointaines?
Non, tout à fait. Enfin, je pense que d'une manière... Enfin, pour rebondir ce que vous disiez, je pense que souvent les scientifiques, ils sont accusés d'être très cartésiens et de ne croire que ce qu'ils voient. Je pense que c'est en partie vrai. Je pense qu'il y a des gens qui se contentent d'appliquer ce qu'ils ont appris. C'est un peu les gens qui sont techniciens. Et puis il y a les gens qui ont une ouverture d'esprit, mais c'est pas parce qu'ils sont scientifiques ou pas d'ailleurs qu'ils l'ont, mais qui sont capables d'aller voir au-delà de ce qu'ils ont appris et d'essayer de découvrir des nouvelles choses. Je pense que la science, d'une manière générale, elle a plusieurs vocations, en tout cas en ce qui me concerne, c'est d'essayer de comprendre un peu le monde qui nous entoure. C'est aussi souvent de reproduire le comportement de la nature et le comportement humain. Et puis c'est aussi d'aller au-delà et de faire des choses que la nature ne nous propose pas. Et moi, c'est un petit peu ça qui me passionne dans l'informatique, enfin dans mon domaine scientifique. Et effectivement, on peut explorer des choses que l'être humain ne peut pas explorer. C'est ce qu'on disait, tout ce qui est domaine de l'infrarouge, tout ce qui est domaine des ultrasons, des infrasons, imaginer d'autres moyens pour les restituer, que ce soit de manière visuelle ou sous forme haptique. On travaille beaucoup sur le toucher dans l'industrie, la capacité à restituer du retour d'effort et du toucher. Donc l'informatique d'une manière générale, elle essaie de reproduire les sens de l'être humain, parfois même de le dépasser, de voir des choses que l'être humain ne peut pas voir, et puis aussi de reproduire l'intelligence humaine et parfois même de la dépasser. Aujourd'hui, il y a une discipline sur laquelle l'ordinateur et l'homme s'affrontent et sont à peu près à égalité, c'est les échecs. Mais il y a des disciplines où l'homme est bien meilleur et d'autres disciplines où l'informatique restera toujours bien meilleure. Voilà, donc c'est un peu comme ça un duel entre l'homme et la machine.
Yes, let's talk about cases of augmented reality which I would find useful. For example, I have nothing against if somebody uses for work, if somebody, let's say, somebody puts on glasses to see in Gimme into the body of a sick person and to get visualized where some organs lie or some veins go, or to see inside a machine like we see it there on the stand where you can look into an airplane. This is okay for work. It would be okay, or other things. If I could stay at home and be projected by holographically on stage here, this would make it a lot of things much easier for me, because after having a reading and no matter where, I would simply switch off the machine and go back to work, and I wouldn't have to travel and etc. etc. So there are a lot of things where it would be a useful tool. So, on the other hand, yeah.
That would also, I mean, that could go a long way towards mitigating the effects of climate change if we all worked from home. I'm especially interested in the idea that was just brought up of mixing and matching the senses, perceiving things in a different way. There's a technology that came out a couple of years ago in which you can basically see with your tongue. You can basically have a sensor stuck on your tongue that pokes you in terms of tactile input. Basically gives you a visual grid that's being used for blind people, to help blind people see. And the really interesting thing is, even if you give this to a sighted person, after a while, the parts of their brain that light up when they are perceiving this input from the tongue stop being the tactile centers and start being the visual centers. It is possible to see, to some extent we see this naturally in synesthesia, it is possible to mix and match the senses. It's not as though sight runs on diesel and hearing runs on solar. They're all basically neural impulses. And to a large extent, how they are perceived basically comes down to where in the brain the impulse ends up being processed. Offhand, I can't think of a reason in principle why hearing a sound might not be every bit as informative as seeing it. And in fact, it might be more informative because sight evolution has biased our senses for survival as opposed to for truth. So there's probably errors, consistent errors, in all of our normal sensory pathways. If you mix up those pathways, you might re-randomize the errors. They would remain, but perhaps you would lose a sensory bias or two. I'm just pulling that out of my ass. I have no idea whether there's any truth to that. But it's a possibility to think about when you consider augmenting reality by actually changing the modality in which you perceive things.
Je suis tenté de donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Il nous reste un petit peu de temps. Donc pas de questions? Bon, alors je... C'est OK.
En fait, j'ai un problème avec la notion de réalité augmentée. J'ai plutôt l'impression que c'est la perception que l'homme a de la réalité qui augmente, mais la réalité, elle est inextensive, on ne peut pas augmenter la réalité. Sauf à rentrer dans un délire un peu démiurgique de « je fabrique davantage de réalité, je suis une forme de Dieu ». Et donc à ce titre-là, j'ai l'impression que c'est un écueil dans lequel tombent souvent les techniciens, c'est de ne pas avoir une réflexion technologique mais simplement technique. « Tiens, je fais un outil, j'augmente la réalité ». Non, on se contente d'augmenter la capacité de l'homme à saisir la réalité. Et vu que le thème des utopiales, c'est un peu écologique, etc., est-ce que ce n'est pas un problème de paradigme ? C'est-à-dire que quand je crois que j'augmente la réalité parce que j'augmente ma représentation de la réalité, ça voudrait dire qu'il n'existe de réalité que celle que je me représente. Et c'est exactement ce problème anthropocentrique qui fait qu'on fait n'importe quoi avec l'environnement. Donc voilà, j'ai un problème avec la notion même de réalité augmentée. On l'augmente pas, la réalité, elle est ce qu'elle est, et nous, on augmente notre perception.
Christophe, est-ce que ce terme de réalité augmentée...
Je suis tout à fait d'accord avec vous, on augmente la perception qu'on a de la réalité. Nous, on a des applications qui sont très pragmatiques. C'est effectivement afficher l'intérieur d'un avion lorsqu'on n'en voit que l'extérieur. Pareil pour une voiture, afficher en réalité augmentée un bâtiment qui n'a pas encore été construit ou l'extension d'un bâtiment. Mais c'est effectivement c'est très lié à la perception qu'on a de la réalité. Alors, en ce qui concerne mon dernier exemple, lorsqu'on affiche quelque chose, un bâtiment qui n'existe pas encore, on peut quand même parler de réalité augmentée, puisque, à mon sens, il n'a pas encore été construit. Et pour autant, on est capable de le percevoir à travers une application de réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on est capable de le visualiser dans son environnement alors qu'il n'a pas été construit. Après, c'est peut-être un peu trop pragmatique, un peu trop technique.
Pour un industriel comme vous, ce terme de réalité augmentée est simplement un très joli terme qui permet d'avoir des contrats et de vendre des produits, ou est-ce qu'il y a une réflexion derrière
Effectivement, la réalité augmentée, c'est très à la mode en ce moment parce que ça a un côté spectaculaire. Et notamment, il y a souvent un effet waouh qui permet de séduire nos clients. Pour autant, on a bien conscience que... Voilà, quand les gens découvrent la réalité augmentée, on profite de ça et on surfe un petit peu sur une vague en ce moment de la réalité augmentée qui est très à la mode. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des vrais usages de la réalité augmentée qui répondent à des vrais besoins, aux besoins de l'industrie, aux besoins de la maintenance, aux besoins de l'aide à la vente, de la formation, et de pouvoir évaluer à chaque fois qu'on met en place des nouvelles expériences de réalité augmentée un espèce de ROI, de retour sur investissement, qui valide que la réalité augmentée, ça sert bien à quelque chose et que c'est pas juste pour faire joli, c'est juste un effet wow. Voilà.
Mais ce serait un bon critère pour juger si une application de réalité augmentée c'est du bon ou du dangereux. Si on montre quelque chose qui n'est pas là, si on montre l'intérieur d'un patient ou d'une machine, c'est une autre chose si on montre quelque chose qui n'est pas là, qui est montré pour nous tricher. Ouais. C'est un bon critère. J'aime ça.
I especially like the idea of making more reality. There might be kind of a story in there somewhere. But I also think that we should not lose sight of the fact that there is a difference in kind and there is a difference merely in degree. And a lot of what we're talking about in terms of augmented reality is just a more efficient delivery system for what technology already tells us. You know, we have dials, we have needles in terms of the operation. Yeah, it's great to be able to look down in at a virtual corpus and see where the ketones and the lactate and where the cancer is. But you could get the same thing out of an MRI scanner. You could get the same thing out of various blood tests and so on. The fact that these data can be repackaged into a way that's more intuitive for us so that we perceive it more directly, I don't think is a bad or a dangerous thing. It's just a more efficient way of reading the needles on our control panels. And that's fundamentally different, I think, than internalizing, changing actual modalities of perception, that kind of thing, which could be a little more problematic.
D'autres questions?
Oui, bonjour. Je ne vais pas fondamentalement m'éloigner de la question. Je voulais réagir parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient de se dire. Ce qui me choque d'abord, c'est cette idée, cette présupposition que la réalité existe à un moment qui est extrêmement scientiste, justement, que finalement le scientifique va juste découvrir la réalité. Je pense que ce qu'on découvre avec le temps, c'est qu'on a tous une subjectivité, que c'est elle qui crée la réalité. Si on va dans les sciences dures, on peut penser à la physique quantique.
où une particule existe dans plusieurs états, et c'est seulement lorsqu'elle interagit, lorsqu'elle est observée, qu'elle va tomber dans un état. Mais de façon plus générale, au fur et à mesure qu'on découvre des nouvelles choses en sociologie, mais aussi en sciences dures, on apprend des nouvelles choses sur notre réalité. Si, dans une expérience de vie concrète, si on va visiter un pays étranger, sans aucun guide, sans aucune description, sans connaître son histoire, sans connaître les enjeux culturels, on ne va pas voir grand-chose de sa
réalité.
Donc c'est pour moi la connaissance et la première forme de réalité augmentée. C'est la réalité augmentée qui existe depuis des milliers d'années. Et ça nous permet effectivement de découvrir beaucoup plus de choses. Et la technologie va continuer en nous apprenant plus de choses, à nous donner plus de réalités, mais ces réalités n'existent pas indépendamment. La vraie réalité, c'est des paquets d'ondes qui se baladent dans le vide et qui interagissent entre eux. C'est pas ma réalité, ça n'existe pas en dehors d'un filtre humain.
Peter, I agree with almost everything you said, with the caveat that I would argue that much of this augmented reality technology, I mean, there has to be a way for the knowledge to get in. We're not brains floating in vats, cut off from all our senses, trying to work everything out from first principles. We need data. And I would argue that the way to acquire knowledge is to more efficiently develop input on which we can base that knowledge. Other than that, I think you're dead on.
On a encore le temps pour une ou deux questions.
Si on parle de réalité augmentée, donc c'est vrai que d'augmenter finalement dans notre vision, donc finalement d'ajouter des choses qu'on a, des choses qui nous manquent. Mais c'est vrai que on est comme dans un monde où il y a énormément d'informations, et à certains moments on en donne déjà trop. Et donc là, on nous a toujours tous parler ici de réalité augmentée, des choses où on voyait par exemple le prix de tout objet qu'on aperçoit, et du coup on se fabrique même plus notre monde subjectif. On serait avec une réalité augmentée, on nous impose un monde qui n'est même plus la réalité augmentée, mais la réalité de l'autre, la réalité de notre système de vision.
Andreas?
Je ne suis pas sûr si j'ai vraiment compris la question.
Enfin, si je peux me permettre de répondre, moi je pense qu'on a réalité augmentée. Effectivement, on affiche des informations qui sont virtuelles, qui n'existent pas, etc. Un des vrais problèmes qui se pose, c'est pas tant d'afficher des choses qui n'existent pas, c'est, je pense, vraiment la source de ces informations et connaître la véracité de ces informations, parce que connaître l'origine, je pense que c'est un problème qui est général en ce moment, et pas qu'avec la réalité augmentée. On est confronté à beaucoup d'informations, et connaître la source de ces informations, c'est très important pour garder un esprit critique par rapport à toutes ces informations. Voilà. Et être capable aussi de faire, ce qui ne sera pas toujours évident, comme je disais tout à l'heure, la distinction entre ce qui est réel et ce qui est augmenté, et sachant qu'avec les interfaces qui arrivent, ça ne sera pas toujours évident quand on aura des choses qui nous sont projetées directement sur la rétine, de manière très réaliste, de faire la part des choses entre ce qui est vraiment réel et ce qui est virtuel. Voilà.
Mais est-ce que les produits qui sont conçus actuellement donneront une possibilité de choix? Quand on regarde la télévision, certes, on nous impose un programme particulier, mais on a le choix du programme. Et une fois qu'on est branché sur une chaîne, on reçoit ce que le concepteur du programme nous a donné, mais on a aujourd'hui une très grande latitude. Est-ce que dans les systèmes de réalité augmentée que vous proposez ou que vos concurrents proposent, on peut imaginer dans le futur d'avoir le choix du type d'information qu'on donnera, non seulement parmi ceux proposés par un éditeur d'informations, mais par toutes sortes de fournisseurs?
Enfin là, je pense que on peut regarder un petit peu comment fonctionne Internet aujourd'hui. Effectivement, on peut sélectionner la source de l'information, mais on peut aussi télécharger des applications de partout. Tout ça, c'est pas contrôlé. Avant, lorsqu'on lisait des bouquins, on savait quand même que c'était contrôlé, etc. Aujourd'hui, on a accès à l'information un petit peu partout dans le monde. On n'est pas sûr de la source, etc. Je pense que ça, c'est un vrai souci qui va, je vous dis, au-delà de la réalité augmentée, le fait de nous mettre à disposition des informations dont on ne connaît pas nécessairement la source et qui ne sont pas contrôlées par qui que ce soit, ça a beaucoup d'avantages, mais ça peut présenter aussi certains inconvénients. Donc, le problème de la source de l'information.
D'autres questions ?
Oui, merci. Moi, je voulais juste terminer, enfin souligner que la réalité augmentée, c'est bien, mais je pense que beaucoup de gens préféreraient être augmentés dans la réalité. Voilà.
Augmenter le salaire, pas la réalité, hein.
Juste peut-être pour réagir, parce que j'ai l'impression que ce qui fait peur un peu, c'est la dépossession de la compréhension qu'on a du système de technologique. Et en effet, vous êtes dans un système de réalité augmentée, et vous ne comprenez ce que je dis que parce qu'on vous explique, enfin, on vous traduit. Ça, vous le comprenez, donc ça ne fait pas peur. Mais si on nous projette des images dont on ne comprend pas d'où elles viennent, ou comment elles fonctionnent, ou quelle technologie permet de la créer, là, commence à flipper, quoi.
How is that any different from the current situation? I mean, for all I know, my words are now being translated as my hovercraft is full of eels. You know, like I still have to take, whether we're reading the gas gauge on our car or whether we're trusting the unseen interpreters who are converting our languages, we still have to trust, whether the reality is augmented or not, that what we're getting is accurate. There's always the possibility of corruption anywhere in that stream.
Christophe, est-ce qu'on peut imaginer des solutions techniques pour garantir que les données que nous recevons sont précises, des mécanismes de filtrage ou d'autocorrection des possibles influences néfastes qu'on recevrait par la réalité augmentée?
Écoutez, là, ça dépasse un peu mes compétences technologiques. Je pense qu'un bon exemple, c'est le web. Aujourd'hui, il y a des mécanismes en place sur le web qui permettent de contrôler un certain nombre de choses qui n'est pas d'informations, enfin, de contrôler toute l'information. Je pense que c'est pas parfait, déjà il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent. Pour moi, la réalité augmentée grand public, parce que nous on fait la réalité augmentée plutôt pour les professionnels. Hein, donc, pour ce qui concerne la réalité augmentée grand public qui nous attend dans les années qui viennent. Je pense que ça va se caler un petit peu sur le même type de schéma que les technologies, l'information en général. Voilà. Pour moi, la réalité augmentée, ça va être des supports qui vont nous permettre d'ajouter les informations dans notre environnement réel, mais les informations resteront les mêmes ou le même type d'informations. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui.
Merci. Bonjour. J'aurais aimé savoir si, par exemple, les imprimantes 3D...
Parlez un peu plus près du micro, s'il vous plaît.
Oui, pardon. J'aurais aimé savoir si, par exemple, les imprimantes 3D qu'on fait aujourd'hui, on pouvait parler de réalité augmentée, puisqu'on crée des objets à l'intérieur d'un ordinateur in silico, donc qui n'existent pas par définition, et on leur donne une réalité en les créant, en fait, à partir de rien, à partir du virtuel. Est-ce que, dans ces cas-là, on peut parler de réalité augmentée ?
I would just ask how that's any different from the recreation of a new iteration or a new generation of life based on genetic codes. In all cases, you're using information transcribed to create a physical object.
Peut-être une toute dernière question, parce qu'on arrive au terme de du temps qui nous était alloué. Ici.
Oui, bonjour. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est câblé pour la réalité augmentée ? Parce qu'effectivement, on n'est pas capable de remarquer le gorille parce qu'on a une fenêtre de conscience très limitée. Donc si on se retrouve avec un champ visuel bourré d'informations, on n'aura pas conscience de plus d'informations, a priori, avec notre câblage cérébral actuel. Donc comment est-ce que ça nous ferait vraiment percevoir plus d'informations ?
Moi, je pense que ce n'est pas tellement la quantité, c'est plus la pertinence de l'information. Je pense qu'effectivement, notre cerveau, il reçoit beaucoup, beaucoup d'informations. Pour autant, on sait qu'il filtre énormément cette information pour se focaliser sur ses zones d'intérêt. Je ne pense pas qu'en augmentant les données, on risque d'avoir trop d'informations. Je pense que, enfin, Notre cerveau aujourd'hui filtre déjà des millions d'informations à chaque fraction de seconde et il a déjà cette capacité à se focaliser sur les zones d'intérêt. Voilà.
Donc, there's an example for this kind of filtering. This is when you're in a big crowd, everybody's talking, and somebody says your name, you will hear it. This is the filtering that's actually happening.
I think the problem in terms of sort of information overload, in terms of, you know, conventional input, but there's just so much of it, so we filter a lot of it out. That's one thing. I really think it's a good question about whether or not we are hardwired for the perception of different types of sensory input, though, which I think is a more fundamental issue, and I think that's what you're getting at. And you may be right. That said, there have been studies recently that have come out that show that a brain with sufficient conditioning can actually rewire itself so that it can, for example, move an anatomically impossible limb. So you can basically have something that moves in a way that is inconsistent with Newtonian physics, and your brain perceiving it by sort of essentially an elaborate optical illusion, a variant of the sort of the rubber chicken hand experiment, will actually figure out how to move with those new rules. There are also cases of rodents that have been injected with cones for particular types of color, which have never existed in that lineage in its evolutionary history. So this is a completely novel form of visual information. And quite to the surprise of the guys who did the experiment, these receptors wired up and the rats were suddenly able to perceive those colors. They knew that basically by doing the equivalent of a color blindness test with, you know, specific patterns that they had to respond to in order to get food. So we do know that even a naturally evolved brain is capable of dealing with qualitatively novel information that neither it nor any of its ancestors have ever experienced before. And we're also capable of operating novel motor systems. So I am hopeful of that. I think it's a really good question, and I don't know how we can do that stuff, but the evidence so far suggests that we can.
Je pense que ce sera le mot optimiste de la fin. Je voudrais remercier nos panélistes pour leurs interventions intéressantes, remercier tous les intervenants pendant les questions, et vous souhaiter à tous une excellente fin de festival. Merci et bonne soirée.